This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason, l'histoire ou quand le jazz retrouve ses repères. Une émission préparée et proposée par Alain Vaquier et Gérard Viols. Réalisation technique, Bruno Bertrand.
J'ai toujours considéré que dans la 5e République, enfin aujourd'hui, même en 79 comme aujourd'hui, on n'a plus besoin de tuer les hommes. C'est tellement plus simple de les abattre avec un bon scandale.
Et que ça marche.
Et oui, et ça marche en effet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Boulin. Alors l'affaire Boulin, qu'en est-il ? Eh bien, le lundi 29 octobre 1979, Robert Boulin, alors ministre du Travail et de la Participation, et selon la version officielle, s'est suicidé dans l'étang de Rompu à Rambouillet, disant pour être moins affirmatif que la version officielle que son corps est retrouvé noyé. Alors bien évidemment, ne comptez pas sur moi pour pouvoir élucider l'affaire, parce qu'elle n'est toujours pas d'ailleurs. En conséquence de quoi, on se contentera de rapporter les faits qui ont fait eh bien, que cette affaire fit scandale lorsqu'elle se produisit.
Thank you.
Juin 1979, le guitariste Attila Zoller, dont je pense plus personne ne se souvient, et c'est bien dommage parce que ce grand monsieur avait trouvé une formule jazz qui ne copiait personne. C'était un peu un hybride entre le jeu de Kenny Burrell, celui de Joe Pass ou également de Jim Hall. C'était donc le thème KB. Alors l'affaire Boulin, pour en parler, il faut quand même remonter à l'origine qui date de 12 années précédant cela. En 1967 va débuter l'affaire du Val-de-Bois. Un promoteur, Henri Tourné, était propriétaire de 36 hectares à Ramatuelle pour lequel il va demander et obtenir un permis de construire. Il veut construire en lotissement, mais pour des raisons budgétaires, eh bien, il tarde à démarrer les travaux. Et à cette époque-là, ce n'étaient pas les mêmes lois qu'aujourd'hui, en conséquence de quoi le permis va devenir caduc. Henri Tourné va donc tenter l'année suivante une nouvelle approche pour redemander un nouveau permis de construire. Et à ce moment-là, il n'hésitera pas à solliciter Robert Boulin pour que ce dernier intervienne en sa faveur. En 1973, Henri Tourné, toujours le même, vend la plus grosse partie du terrain à trois hommes d'affaires normands. Cette vente n'est pas enregistrée au bureau des hypothèques de Draguignan, pour d'obscures raisons d'ailleurs. De ce fait, Henri Tourné, n'hésite pas à vendre une nouvelle fois le terrain, cette fois-ci à une société suisse, Olitour, et semblerait-il, il en demeurerait malgré tout l'actionnaire majoritaire. En 1974, Robin Boulin va de son côté acheter à cette société 2 hectares pour y construire une villa. En total respect de la réglementation de l'époque, il obtient un permis de construire pour y faire construire une maison de vacances. Thank you. Art Pepper, musicien emblématique de la West Coast, dans la même lignée que Chet Baker, et tout comme lui, eh bien, il sera addict aux substances qui vont l'aider à trouver l'inspiration, ce qui lui vaudra quelques années de tôle d'ailleurs. Et pendant ces années-là, eh bien, il aura largement le temps d'écouter John Coltrane, ce qui fait qu'à sa sortie, il s'en inspirera tout en gardant cette sonorité et ce sens qui est du phrasé, qui feront de lui une des figures emblématiques des années suivante, à tel point qu'après son décès, eh bien, sa veuve, Lori Pepper, continuera, elle, à poursuivre l'œuvre qu'avait accomplie son mari avec un nouveau label qui s'appelle Widows, la veuve, donc d'Art Pepper. Ici, c'était Art Pepper avec Mambo Koyama. Alors, je vous disais, Robert Boulin, lui, est persuadé qu'il a fait une bonne affaire, qu'il a acheté tout en toute légalité, mais ce qui va se produire, c'est comme je vous indiquais, c'est que les trois acheteurs normands, eh bien, eux, considérant qu'ils sont toujours propriétaires des hectares, ils vont contester la validité de cette vente et de ce fait, la validité du permis de construire de Robert Boulin. En 1979, donc, vous vous rendez compte, on est pratiquement 4 ans après, cette affaire a été transmise bien sûr à la justice et 2 inculpations seront prononcées. Celle du notaire, Maître Groult, qui lui avait donc, si je puis dire, accepté la signature de 2 ventes pour le même terrain. Également, donc, évidemment, le promoteur Henri Tournet accusait lui d'avoir vendu 2 fois le même terrain. Robert Boulin était-il au courant de cette double vente? Il s'en est toujours défendu.
J'ai acheté en 1974 un terrain dans la presqu'île de Ramatuelle, par acte authentique devant un notaire, j'ai transcrit. conformément aux règles d'urbanisme en cours et dans le respect le plus absolu de ces règles d'urbanisme, je vais faire une maison de 180 mètres carrés pour 2 hectares de terrain, car le COS était de 0,03, sans dépendance ni étage. Et puis, mon affaire est terminée. Bon, ni garage, ni étage. Non, non, non. 0,03, je pouvais faire que 180 mètres carrés au sol pour 2 hectares. J'ai respecté scrupuleusement les règles d'urbanisme. J'apprends 4 ans après qu'il y aurait eu des ventes antérieures de ce terrain par un personnage qui aurait vendu plusieurs fois. Je vous réponds quoi? Moi, je suis transparent dans cette affaire. Je suis allé devant un notaire, j'ai passé un acte authentique, j'ai payé, j'ai transcrit. Bon, il y a une instance pénale, je n'y suis pas parti. Il n'y a pas d'instance civile contre moi, mon terrain n'est pas menacé. Qu'est-ce que je réponds? Moi, je laisse parler les gens, et j'ai l'âme et la conscience tranquille, et j'ai été exemplaire, et peut-être plus encore que vous ne le pensez, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici.
Imaginez ce qui vient d'être dit. Je peux dire des choses que je ne peux pas dire ici. Et ça, ça va déclencher l'affaire Boulin. Parce qu'en fait, on ne saura jamais ce qu'il voulait dire Robert Boulin. Puisque malheureusement, comme vous le savez, il a donc été suicidé, dira-t-on. Ce qui fait qu'on ne saura jamais ce qu'il voudrait dire et qu'il ne peut pas dire à Europe numéro 1. Alors, qui était Robert Boulin? Ce fut l'un des plus... on va dire, politicien, ministre, avec la plus longue carrière politique. Il avait commencé avec le général de Gaulle, il la poursuivra avec Raymond Barre, et au cours de cette carrière, eh bien, il avait débuté en 1958 en se faisant élire comme député à Libourne et en devenant maire de la ville. Il sera ensuite secrétaire d'État aux rapatriés sous le gouvernement Pompidou, secrétaire d'État au budget, secrétaire d'État à l'économie et aux finances, ministre de la fonction publique, ministre de l'Agriculture sous coup de Murville, ministre de la Santé publique. Présenté comme un homme politique intègre et assidu au travail, sa nomination en qualité de Premier ministre sera même un moment invoquée. L'affaire Robin Boulin. À l'automne 1979, des lettres anonymes parviennent à plusieurs journaux dénonçant l'acquisition de manière illégale de ces 2 hectares. Minute, toujours un peu excessif, titrera « Boulin a fait la belle boulette ». Le Canard enchaîné et Le Monde reprennent cette histoire-là. Acculé par tant de haine, dira-t-il, Robert Boulin se suicide le 29 octobre. Son corps sera retrouvé donc le lendemain. Son cadavre lui sera retrouvé à 5 mètres de la berge et il gît à genoux, la tête hors de l'eau, dans 60 cm d'eau et 40 cm de vase. Comment peut-on comprendre que quelqu'un qui s'est suicidé et encore la tête hors de l'eau? C'est les raisons qui feront que, d'une part, de par ce qu'il avait dit, l'Europe numéro 1, mais aussi de ce que va déclarer à l'Assemblée nationale Jacques Chaban-Delmas, petite phrase significative, écoutez bien.
Ainsi, Robert Boulin nous a quittés. Puissions-nous méditer pour tirer les leçons de ce drame, de cet assassinat.
Vous avez bien entendu, de cet assassinat. C'est-à-dire que Chaban-Delmas, qui était un ami de longue date, puisque maire de Bordeaux, évidemment, Libourne, c'était la proche commune près de Bordeaux, eh bien, il avait des relations privilégiées avec Robert Boulin. Donc, ces deux choses vont faire que la phrase prononcée par Robert Boulin, « J'aurai des choses à dire que je ne peux pas dire », et Chaban-Delmas disant « C'est un assassinat », à l'Assemblée nationale, c'est quand même pas n'importe quoi, vont faire en sorte eh bien, qu'on va commencer à s'interroger. Et s'interroger, ça passera évidemment par différentes factions. Tout le monde sera impliqué là-dedans. Et puis, il faudra à un moment qu'il y ait le témoignage d'un policier parti à la retraite qui avait, lui, participé à l'enquête et qui va donc déclarer ceci.
Quand on est arrivé sur place, il y avait une foule de gens présents, gendarmes, pompiers, policiers. Ils recherchaient ils nous ont pas donné le nom, hein, une personnalité qui était susceptible de mettre fin à ses jours, et son véhicule. Et puis on nous a laissé chercher à notre guise, et puis peut-être 10 minutes après on a trouvé le corps dans l'eau et puis la voiture. Le corps dans l'eau, il est à genoux dans l'eau, sa tête qui ressort bien de l'eau, et puis il regarde son véhicule. Et on aurait dit qu'il voulait sortir, si vous préférez. Il y avait peut-être 50 centimètres d'eau. Et j'ai trouvé bizarre qu'il soit mort comme ça, parce que on peut pas mourir noyé quand on a la tête en dehors de l'eau. Donc il n'est pas mort noyé. Ça, c'est une certitude, ça. J'ai rien compris. J'ai déjà pas compris que le soir de la découverte, on puisse rentrer chez nous sans être interrogé, sans quoi que ce soit. Quand j'ai été entendu 15 jours, 3 semaines après par le SRPJ de Versailles, il avait des griffes et quelques contusions sur lui. Puis ils m'ont dit, les griffes, elles ont été faites quand les pompiers ont sorti le corps, il est tombé par terre. Alors que j'ai jamais vu ça.
Vous imaginez ce que provoque auprès de la famille ce témoignage? Ça va relancer toute l'enquête et l'enquête continuera avec des péripéties inqualifiables. Je peux vous en citer quelques-unes. On va déjà dire, si vous voulez, que le 30 octobre, donc, après qu'on ait découvert le corps, dans les circonstances qui sont passées, une année plus tard, écoutez bien, disparition des prélèvements de sang de Robert Boulin à l'Institut médico-légal. C'est-à-dire que le docteur Roger Le Breton, responsable de l'Institut médico-légal, va cadenasser le frigo dans lequel sont conservés encore les quelques restes que l'on peut trouver des organes de Robert Boulin. En février 1981, encore un an plus tard, Robert Badinter, avocat de la famille Boulin, obtient des photographies du visage traumatisé de Robert Boulin, prises par la police judiciaire. Interrogé, lui, en 2009, comme quoi on peut aussi retourner sa veste, il va affirmer cependant avoir toujours cru au suicide. En mai 1983, évidemment, Colette Boulin, la femme de Robert Boulin, indique qu'elle n'a jamais cru à la thèse du suicide de son mari et qu'après sa mort, on a fait pression pour qu'elle se taise.
Espérez-vous trouver avec ces examens ?
Bien, j'espère que ça va nous éclairer. J'espère quand même qu'on va découvrir quelque chose.
Pourquoi ne croyez-vous pas au suicide de votre mari ?
Parce que mon mari était blessé. Il était blessé. J'en avais fait part aux personnes qui étaient là le jour où on a ramené le corps. Et eux n'ont pas fait tellement attention. D'autres m'ont dit taisez-vous, d'autres m'ont dit qu'il ne fallait pas chercher à comprendre, qu'on ne savait pas, qu'on verrait plus tard, etc. Et puis lorsque j'ai reçu les photos, beaucoup plus tard, je les ai ouvertes et refermées. Ensuite, j'ai dit il faut que je sache, que je vois. Je ne crains ni le déballage, ni quoi que ce soit dans ma vie privée. Je cherche une vérité, et la vérité, il faut qu'elle sorte.
Y compris avec l'exhumation d'un corps qui a été enterré il y a 4 ans ?
C'est peut-être un peu tard, effectivement, mais enfin, il paraît qu'on peut trouver certaines choses encore.
Que pensent de tout cela les anciens amis politiques de votre mari ?
À ça, je n'en sais rien, parce qu'ils ne m'ont pas fait l'honneur de venir me le dire.
Vous n'avez plus aucun contact avec eux ?
Ah non, jamais. Non, non.
Et n'avez-vous pas envie, parfois, de laisser votre mari dormir en paix ?
Je pense qu'il dormira en paix le jour où je dormirai en paix.
Eh bien, Madame Boulin ne dormira plus jamais en paix, car à ce jour encore, eh bien, l'affaire n'est toujours pas élucidée. Mais pour compléter ce que je vous ai indiqué, eh bien, sachez que, évidemment, excédée par le comportement, on va dire, allez, elles vont changer d'avocat, elles vont prendre, imaginez qui, Jacques Vergès. Et lui, eh bien, il va déposer plainte pour homicide volontaire. Il va donc demander, pour pouvoir prouver la noyade, au juge d'instruction Michel Maestroni, un examen anatomopathologique pour comparer les particules contenues dans les poumons du ministre avec les prélèvements d'eau de l'étang rompu. Cette analyse ne sera jamais effectuée. On va demander une deuxième autopsie, donc toujours à ce moment-là, et ça va mettre en évidence la présence de plusieurs fractures au visage non mentionnées par la gendarmerie. Vous imaginez un peu, pour la famille, ce qu'il en est, à savoir que les légistes constatent que tout ce qui a été dit n'a pas été consigné dans les procès-verbaux de la police. C'est en cela que cette affaire Boulin est absolument extraordinaire. Eh bien, et puis va se mêler à cela aussi différents témoins comme la fille de M. Sanguinetti qui va déclarer « D'après ce que papa m'a dit, les dossiers de Boulin concernaient une série de facturations diverses et variées de grosses sociétés françaises ou étrangères qui servaient au financement occulte des partis et notamment au RPR ». Peu grand-chose a changé depuis et on continue allègrement dans ces situations troubles aujourd'hui encore. Big Malion, tiens, une affaire citée au hasard. Vous voyez que presque 50 ans plus tard, c'est toujours pareil. Mais tout ça, évidemment, c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words. Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Ça ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.